La voix de la crime. Un podcast pour mieux comprendre la jurisprudence de la chambre criminelle. Avec la participation d'Ida Chaffay et Olivier Violo, conseiller référendaire, et de Guillaume Fradin, directeur du service de communication de la Cour de cassation.
Pour ce premier épisode, nous évoquerons un arrêt rendu le 16 janvier 2024 qui a énoncé les conditions dans lesquelles un enquêteur, agissant en préliminaire, peut fouiller un véhicule.
Mais avant cela, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bonal, le président de la chambre criminelle, qui va nous présenter la raison de ce podcast et son objet. Monsieur le Président.
La raison de ce podcast, elle est toute simple. Il s'agit de faire mieux comprendre les décisions rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Se faire bien comprendre, c'est le devoir de tous les juges, mais pour les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation, il me semble que c'est un impératif absolu. La mission de cette Cour, c'est de garantir à tous une interprétation uniforme de la loi pénale en veillant à sa correcte application par les juges des tribunaux et des cours d'appel, dans le respect des règles de procédure pénale. Et comment la chambre criminelle pourrait remplir cette mission si elle ne savait pas se faire comprendre de ses juges, mais aussi de tous ceux qui peuvent avoir affaire à la justice? Alors, notre objectif, évidemment, c'est que les arrêts que nous rendons soient en eux-mêmes, à leur simple lecture, les plus clairs et les plus lisibles possibles. Mais le droit pénal, la procédure pénale, il faut bien le dire, sont complexes. C'est pourquoi, pour aider à comprendre nos décisions, nous publions depuis 4 ans, tous les mois, la lettre de la chambre criminelle qui présente, de la façon la plus simple et la plus accessible possible, les plus importantes décisions rendues pendant le mois qui précède. Aujourd'hui, nous avons décidé de franchir une étape nouvelle, de passer de l'écrit à l'oral, comme l'a fait avant nous la Chambre sociale de la Cour de cassation, et donc d'ajouter à notre lettre mensuelle un podcast trimestriel que nous avons décidé d'appeler « La voix de la crime ». Dans la lettre, nous présentons environ une dizaine d'arrêts. Dans le podcast, en revanche, nous allons prendre le temps, une vingtaine de minutes, pour donner à entendre, en la décryptant, une seule décision. Décrypter, c'est d'abord expliquer les notions que manie la décision, qui ont une signification juridique qui n'est pas toujours connue de tout le monde. Décrypter, c'est aussi replacer dans son contexte plus général la solution qui est apportée par l'arrêt. Décrypter, c'est surtout examiner les enjeux de la question posée et les raisons du choix de la réponse qui lui est apportée. En clair, c'est prendre le temps de mieux se faire entendre pour mieux se faire comprendre, on y revient. Alors, mieux se faire comprendre, bien sûr, mais de qui? Le propre du droit pénal, c'est d'être susceptible de concerner tous les citoyens qui tous peuvent avoir affaire à la police, puis éventuellement au juge, qu'ils soient, que nous soyons, victimes ou personnes suspectées. Mais l'autre caractéristique du droit pénal, c'est d'intéresser tous les citoyens par les grandes questions qu'ils posent à notre société. Comment concilier l'efficacité des enquêtes et le respect des libertés individuelles? Comment distinguer ce qui est interdit par la loi de ce qui ne l'est pas? Et puis, lorsqu'une personne a été reconnue coupable, quelle peine prononcer contre elle et en fonction de quels critères? Et aussi, selon quels principes procéder à l'indemnisation des victimes d'infractions? De sorte que la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut pas se contenter de s'adresser aux professionnels du droit pénal et de la procédure pénale, qu'ils soient enquêteurs, avocats, universitaires ou juges, et de leur parler dans le langage technique, parfois abscon, il faut bien le dire, des juristes. Elle doit absolument tenter de s'adresser à tous, afin que chaque citoyen qui s'intéresse à la façon dont la justice pénale est rendue en France puisse mesurer l'importance des questions qui lui sont posées et comprendre pourquoi et au terme de quel cheminement elle leur apporte telle ou telle réponse. Voilà toute l'ambition de ce podcast. Deux conseillers de la Chambre criminelle, Ida Chaffay et Olivier Violo, ont accepté de relever ce défi avec Guillaume Fradin, le chef du service de communication de la Cour de cassation. Ils vont donner vie à ce podcast et toute la Chambre criminelle leur en est très reconnaissante.
Merci Monsieur le Président pour ce propos qui annonce des perspectives intéressantes pour nos auditeurs. Nous allons maintenant évoquer l'arrêt du 16 janvier 2024 qui a été sélectionné pour ce premier podcast. Dans cet arrêt, la chambre criminelle a considéré que des enquêteurs ne peuvent fouiller un véhicule en enquête préliminaire qu'après avoir recueilli le consentement du propriétaire ou du conducteur du véhicule. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'évoquer cette décision ?
Cela peut vous étonner, mais jusqu'à présent, la Cour de cassation n'avait pas eu l'occasion de trancher la question de savoir si un enquêteur qui procède à la fouille d'un véhicule au cours d'une enquête préliminaire, nous y reviendrons tout à l'heure, doit respecter un certain formalisme ou si, au contraire, cette fouille peut être effectuée sans forme. Pourtant, en pratique, ce genre de situation se présente fréquemment. De manière générale, les véhicules constituent souvent des enjeux en matière pénale. Par exemple, ils servent à commettre des infractions. Je pense, par exemple, aux excès de vitesse, mais également à des transports de produits stupéfiants. Ils sont alors qualifiés d'instruments de l'infraction. Ils peuvent à ce titre faire l'objet de saisies puis de confiscations, certaines devant d'ailleurs être obligatoirement prononcées par le juge pénal. Les véhicules peuvent encore être le produit de l'infraction lorsque celle-ci a financé son acquisition. Les véhicules, ce sont aussi des extensions de notre sphère privée et à ce titre, ils illustrent parfaitement la tension qui existe en procédure pénale entre, d'un côté, l'efficacité de l'enquête, de l'autre, la protection des libertés individuelles. C'est tout l'office du juge, et en particulier celui de la Cour de cassation, que de parvenir à trouver l'équilibre entre ces deux principes en tension.
Alors, quels étaient les faits dans ce dossier et la question qui était posée à la Cour de cassation ?
La personne qui a saisi la Cour de cassation, qu'on appelle le demandeur au pourvoi, a été découverte en possession de drogue alors qu'elle était détenue dans un centre pénitentiaire. Plusieurs semaines plus tard, les forces de l'ordre ont voulu l'entendre, mais entre-temps, cette personne avait été remise en liberté. Des convocations lui ont alors été adressées sans succès. L'intéressé n'a pas comparu devant les policiers qui agissaient, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, dans le cadre d'une enquête préliminaire. Après l'avoir mis sous surveillance, les policiers ont procédé à son interpellation alors qu'il descendait d'un véhicule. Et c'est ce véhicule, en l'occurrence, que les policiers ont immédiatement fouillé sans demander son accord à l'intéressé. À l'issue de l'enquête, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, notamment pour détention d'armes découvertes à son domicile. Il a contesté la régularité de l'enquête, plus particulièrement la fouille de son véhicule, intervenu en enquête préliminaire. Il a fait valoir que cette fouille ne pouvait avoir lieu sans son accord.
Alors, à ce stade, nous en sommes aux poursuites devant un tribunal correctionnel. J'aimerais comprendre comment l'affaire remonte jusqu'à la Cour de cassation.
En fait, le tribunal a considéré que la procédure était régulière et il a condamné cette personne pour les faits qui lui étaient reprochés. Donc, cette personne a fait appel. On dit, pour être plus exact, qu'elle a interjeté appel. Devant la cour d'appel, l'intéressé a à nouveau critiqué la régularité de la procédure d'enquête. Cependant, la cour d'appel a validé le raisonnement des premiers juges et condamné l'auteur des faits reprochés à 3 ans d'emprisonnement. C'est à ce stade que la cour de cassation entre en jeu, puisque le condamné a décidé de contester la décision de la cour d'appel. Il a formé ce que l'on appelle un pourvoi en cassation. C'est donc en examinant ce pourvoi que la cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si une fouille de véhicule qui intervient sans que son occupant n'ait donné son accord est ou non légale.
Vous avez parlé d'enquête préliminaire, de perquisition. On entend fréquemment ces termes dans les médias. Mais finalement, à quoi cela correspond vraiment ? Pouvez-vous nous expliquer ces concepts juridiques et leurs implications ?
Bien sûr. Le Code de procédure pénale fixe des règles qui encadrent l'action des magistrats et des enquêteurs, notamment pour permettre l'identification des auteurs d'infractions et leur jugement, mais dans le respect des libertés individuelles. L'étendue des pouvoirs des enquêteurs va varier en fonction de 2 paramètres. Premier paramètre, lorsque l'infraction a été commise très récemment, On dit que les enquêteurs agissent en enquête de flagrance. Ils disposent alors de pouvoirs coercitifs importants. Ils peuvent, par exemple, interpeller des suspects, procéder à des perquisitions sans autorisation d'un magistrat. En revanche, lorsqu'ils ne sont pas dans un cas de flagrance, ils engagent une enquête préliminaire et là, la philosophie n'est plus la même. Il s'agit cette fois d'un cadre d'enquête non coercitif. La personne doit être convoquée pour être entendue et ne peut pas être amenée de force au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, sauf si un magistrat en a donné l'autorisation. De même, son domicile ne peut être perquisitionné sans son consentement, là encore sauf autorisation d'un juge. Deuxième paramètre qui joue sur l'étendue des pouvoirs des enquêteurs, la nature de l'acte qu'ils accomplissent. Pour schématiser, plus l'acte est intrusif pour la vie privée, plus la loi l'encadre. Prenons un exemple. Un enquêteur ne pourrait pas mettre en place des écoutes téléphoniques sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'un juge. C'est une autorisation écrite qui explique en quoi cette mesure est utile à la manifestation de la vérité, c'est-à-dire à l'élucidation de l'infraction. En résumé, il faut retenir qu'au cours d'une enquête préliminaire, les enquêteurs ne disposent par principe d'aucun pouvoir de coercition.
Voilà en quelques mots le cadre de l'enquête préliminaire. Pour en revenir à notre arrêt, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est vraiment une perquisition ?
On parle de perquisition lorsqu'un lieu clos, dans lequel une personne peut se dire chez elle, fait l'objet d'une fouille pour rechercher des éléments de preuve de l'infraction ou pour y saisir des biens en vue de leur confiscation par la justice.
Vous parlez d'un lieu clos dans lequel une personne peut se considérer chez elle. Est-ce que l'on peut considérer que c'est le cas d'un véhicule ?
Non, un véhicule ne répond pas à cette définition. Un véhicule est un moyen de transport. Or, un moyen de transport n'est pas assimilable à un domicile. La chambre criminelle de la Cour de cassation l'a redit récemment dans un arrêt du 5 janvier 2021 à propos d'un véhicule suspecté d'être utilisé par des braconniers qui avait été fouillé par des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il y a toutefois deux exceptions dans lesquelles les règles de la perquisition s'appliquent à un véhicule. D'abord, il peut arriver qu'un véhicule soit spécialement aménagé pour un usage d'habitation et effectivement utilisé comme une résidence. Ce cas de figure est prévu à l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale. Ensuite, autre cas de figure, le véhicule est stationné au domicile de son propriétaire. C'est la Cour de cassation qui en a décidé ainsi, en considérant que dans cette situation, le véhicule constituait une annexe du domicile.
Y a-t-il d'autres hypothèses prévues par le législateur ?
En dehors de ces deux hypothèses, il existe différentes règles qui permettent aux policiers ou aux gendarmes de procéder à la fouille d'un véhicule. Il serait difficile de toutes les évoquer, mais je vous propose de nous arrêter un instant sur l'une d'entre elles. Le législateur n'a pas spécifiquement réglementé les fouilles qui sont pratiquées lors d'une enquête de flagrance. Mais il a prévu un cas de figure qui peut en pratique l'englober. C'est ce qu'on pourrait appeler la suspicion de flagrance. L'article 78-2-3 du Code de procédure pénale prévoit l'hypothèse dans laquelle les forces de l'ordre ont des raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis un crime ou un délit flagrant. Admettons que cette personne soit le conducteur ou le passager d'un véhicule circulant ou arrêté sur la voie publique, ou bien dans des lieux accessibles au public. Dans cette configuration, les enquêteurs peuvent procéder à la visite du véhicule. Mais attention, seulement en présence du conducteur ou de son propriétaire, et, à défaut, en présence d'une personne requise par l'officier ou l'agent de police judiciaire. Ce formalisme ne s'impose pas si le véhicule n'est pas arrêté ou stationné sur la voie publique, mais abandonné. C'est ce qu'a récemment jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2023. Il s'agissait de véhicules qui avaient été découverts accidentés et abandonnés sur l'autoroute et dont la fouille a révélé qu'ils transportaient des stupéfiants.
Ce podcast est l'occasion de vous annoncer que le vendredi 17 mai, à compter de 9h30, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation se réunira sur renvoi de la chambre criminelle pour déterminer si, en cas de dommage causé par un enfant, seul le parent au domicile duquel la résidence habituelle de cet enfant a été fixée peut être condamné à réparer les conséquences de ce dommage, quand bien même l'autre parent exercerait conjointement l'autorité parentale. Cette audience publique sera par ailleurs diffusée sur le site internet de la Cour de cassation et ses réseaux sociaux, accessible en replay à partir de 14h. Vous venez de nous expliquer que le code de procédure pénale ne prévoit pas spécifiquement la fouille d'un véhicule en enquête préliminaire. Mais est-ce que cela veut dire qu'un enquêteur peut venir fouiller librement mon véhicule lorsque je ne suis pas présent, sans que je puisse m'y opposer, simplement parce qu'il me soupçonne d'avoir commis une infraction ?
C'est précisément la question qu'a eu à trancher la Cour de cassation, puisque les enquêteurs avaient fouillé le véhicule du suspect sans formalité. Et avant de vous répondre, il faut rappeler que le juge a pour mission d'appliquer à des cas particuliers la loi, qui est une norme juridique générale, abstraite, source de droits et d'obligations pour tous les citoyens. Pour cela, le juge doit interpréter la loi pour en apprécier le sens et la portée. Et parfois, comme dans notre exemple, les textes doivent être appliqués à des situations qui n'ont pas été expressément envisagées. Le juge doit alors rechercher l'intention du législateur et tenir compte des normes qui s'imposent à lui. Constitution, règles de droit communautaire, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces derniers textes ont une valeur supérieure à la loi et s'imposent aussi bien au législateur qu'au juge.
Et dans notre affaire, comment a procédé la Cour de cassation ?
Dans notre affaire, l'intéressé a évoqué la violation de son droit au respect de la vie privée, qui est un droit protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La chambre criminelle de la Cour de cassation a partagé cette analyse et a considéré que la fouille d'un véhicule est un acte intrusif dans l'intimité de la vie privée, mais d'une intensité moindre que la perquisition d'un domicile, pour les raisons précédemment évoquées. Or, les règles de droit européennes interdisent qu'il soit porté atteinte à la vie privée d'une personne si cette ingérence n'est pas strictement encadrée par la loi. C'est pourquoi la Cour de cassation ne pouvait juger que la fouille d'un véhicule en enquête préliminaire n'est soumise à aucune règle. Par ailleurs, elle avait déjà dégagé des standards qui s'appliquaient à cette situation. En effet, de longue date, la Cour de cassation juge que la fouille d'un objet qui se rattache à l'intimité de la vie privée, en enquête préliminaire, est assimilée à une perquisition et soumise aux règles prévues en la matière. Par exemple, la fouille d'un portefeuille, une fouille de valise, ou encore celle d'un téléphone portable, comme la chambre criminelle l'a jugé dans un arrêt du 12 janvier 2021 à propos d'une exploitation de téléphone d'une personne placée en garde à vue. Mais surtout, comme nous l'avons vu, le législateur a encadré la fouille d'un véhicule si les forces de l'ordre suspectent le conducteur ou son passager d'avoir commis un délit flagrant. Or, l'enquête de flagrance donne aux enquêteurs des pouvoirs de contrainte plus étendus qu'en matière d'enquête préliminaire. Dans ces conditions, il n'était pas possible de juger que le même acte accompli en enquête préliminaire n'était soumis à aucune forme particulière. Ce sont les raisons qui ont amené la chambre criminelle de la Cour de cassation à considérer qu'une telle fouille doit être soumise aux règles prévues en matière de perquisition. Dès lors, durant une enquête préliminaire, la fouille d'un véhicule ne peut être effectuée qu'avec l'accord du propriétaire ou du conducteur du véhicule. Il ne peut être passé outre que sur autorisation du juge.
Donc, pour en revenir à notre affaire, cela revient à dire que la cour d'appel aurait dû annuler cette fouille de véhicule. Elle aurait dû constater que cette fouille était irrégulière, puisque, comme il l'a été dit, la fouille du véhicule a été faite sans le consentement de son occupant.
C'est exact. Mais attention, en procédure pénale, la nullité d'un acte n'est prononcée que lorsque l'irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne concernée. Cette subtilité, qui découle des deux articles du Code de procédure pénale qui encadrent le prononcé des nullités, les articles 171 et 802, s'explique au regard des impératifs contradictoires que le juge pénal doit concilier. D'un côté, sanctionner la méconnaissance des règles de procédure énoncées par le législateur afin d'en assurer le plein effet. De l'autre, éviter la sanction procédurale de la méconnaissance de formalité qui serait sans effet pour les auteurs d'infractions et qui aurait pour conséquence de garantir leur impunité. C'est pourquoi le législateur a imposé à celui qui demande le prononcé d'une nullité de justifier qu'il est concerné par l'irrégularité et que cette irrégularité a porté atteinte à ses intérêts. La Cour de cassation en déduit que celui qui demande la nullité d'un acte doit avoir intérêt à obtenir l'annulation de l'acte. Il doit également prouver sa qualité à agir, c'est-à-dire en quoi il est concerné par la formalité qui n'a pas été respectée. Enfin, si l'irrégularité est établie, le juge ne peut prononcer la nullité de l'acte que si le demandeur à la nullité justifie d'un grief, c'est-à-dire d'une atteinte à ses intérêts. Attention, il ne suffit pas d'être mis en cause par l'acte de procédure critiqué pour rapporter la preuve d'un grief. Ce dernier doit découler de l'acte lui-même.
Alors, quelle application la Cour de cassation a-t-elle fait de ces principes dans notre arrêt du 16 janvier 2024 ?
La Cour de cassation a seulement constaté que, dans sa requête en nullité, l'intéressé n'a même pas allégué avoir subi un grief à l'occasion de la fouille de son véhicule. Elle en a donc déduit que la Cour d'appel n'avait pas à prononcer la nullité de l'acte critiqué.
Avoir ce niveau d'exigence, est-ce que cela ne revient pas à empêcher le prononcé de toute nullité ?
Non, car, comme il l'a déjà été dit, le législateur a lui-même conditionné le prononcé d'une nullité à la preuve d'un grief. L'objectif étant d'éviter de faire preuve d'une trop grande rigueur procédurale qui conduirait à prononcer systématiquement des nullités sans que cela en représente un bénéfice pour le droit des parties. Dans une situation comme celle-ci, pour obtenir le prononcé de la nullité, la personne qui soulève une irrégularité doit, de manière plus générale, préciser au juge en quoi il a été porté atteinte à ses intérêts. Par exemple, en cas de fouille d'un véhicule, il appartient à celui qui demande l'annulation de celle-ci de faire valoir que, admettons, la saisie qui a été faite lors de la fouille a porté atteinte à sa vie privée. Cela n'a pas été fait dans la situation ayant donné lieu à l'arrêt du 16 janvier 2024.
Vous nous avez dit tout à l'heure que la Cour d'appel, qui a condamné le protagoniste de notre affaire, avait considéré que la procédure était régulière. Or, elle ne l'était pas, et pourtant, la Cour de cassation n'a pas cassé cet arrêt de Cour d'appel.
Les étudiants en droit apprennent que la Cour de cassation est le juge du droit et non du fait. Il lui incombe en effet de veiller à la bonne application par les juges des règles de droit et en particulier des règles de procédure. Or, dans un certain nombre de cas, le cheminement intellectuel de la Cour d'appel et celui de la Cour de cassation sont différents, mais ils aboutissent à la même conclusion. Et dans ce cas, justement, la Cour de cassation a la possibilité de substituer son raisonnement à celui de la Cour d'appel. C'est un mécanisme qu'on appelle la substitution de motifs, les motifs étant le raisonnement juridique qui a conduit le juge à prendre sa décision. Cette substitution de motifs est pratiquée assez couramment en matière de nullité de procédure, car en la matière, la Cour de cassation exerce un contrôle approfondi sur les pièces de la procédure. Elle examine la totalité des pièces du dossier et ne se contente pas de décider, comme dans d'autres matières, à la seule lecture de la motivation de l'arrêt attaqué.
C'est la fin de ce podcast. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver un résumé de l'arrêt commenté du 16 janvier 2024 dans la lettre de la Chambre criminelle du mois de février 2024 et lire toutes les références des décisions citées sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque.
Merci également à l'équipe d'Amicus Radio pour leur soutien technique et leur précieuse assistance.
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain podcast de la Chambre criminelle. N'hésitez pas à faire part de vos demandes d'explications de jurisprudence en nous envoyant un courriel à l'adresse lavoiedelacrime.courdecassation@justice.fr. À bientôt.